Chère auditrice, cher auditeur, si vous n'avez jamais vécu une arrestation arbitraire ou brutale de la part des forces de l'ordre, moi, personnellement, je ne vous la souhaiterais pas. Je l'ai vécu et je n'arrive pas à me remettre depuis des années. Donc il arrive souvent que la réalité dépasse les images et la description. Les mots restent toujours limités, incapables de tout décrire. Voilà pourquoi la victime cherche toujours d'autres voies pour mieux s'exprimer. La semaine passée, j'ai rencontré une femme québécoise âgée de 70 ans, une femme qui m'a émerveillé. Et le peu que je peux dire de cette dame est qu'elle est une femme exemplaire pour toutes les générations québécoises présentes et à venir. Par son courage, sa détermination, ses idées, sa valeur, son endurance, son combat et sa lutte pour la justice sociale, elle est la personne idéale à suivre comme exemple. Militante depuis 30 ans pour les libertés humaines, elle se prépare avec son groupe approximativement du même âge pour participer à la manifestation concernant la tenue du sommet des G20. Déterminée que sa participation est un devoir ultime, sans appel, comme tous les manifestants, elle est partie exprimer son désaccord aux mesures antidémocrates, de les pressions de l'État, aux attaques contre les droits et à l'écartement du peuple dans les prises de décision. Pour cette dame, écarter le peuple de la prise de décision est un crime sans précédent qui n'amènera que l'anarchie. À son âge, le pouvoir lui fait peur de plus en plus. Pour elle, c'est le peuple qui devra fabriquer ou construire son leader. Elle est venue, donc, ou bien elle est venue de se réveiller dans le gymnase de l'Université de Toronto quand les policiers ont procédé à son arrestation. Madame Rochelot, si nous retournons un peu en arrière avec vous, avec votre groupe, vous êtes arrivé à Toronto à 3h du matin et vous avez passé la nuit chez des militants qui habitent à Toronto. Le samedi à 12h30, vous êtes rendu sur le lieu de la manif. À 14h, le déclenchement de la manifestation. Selon vous, les manifestants étaient partagés entre syndicalistes et anticapitalistes et d'autres. Et sur le lieu, c'était quoi votre objectif? Pouvez-vous me dire en quelques mots?
Nos revendications, c'était de s'opposer au financement des banques puis aux coupures dans les programmes sociaux dont les 20 pays discutaient à l'intérieur du G20. Notre intention était de se faire entendre par le G20, si possible, dans un geste symbolique, de faire tomber la clôture.
Ah, vous êtes allé vraiment approcher pour tomber symboliquement, c'est ça?
Oui.
Pour vous dire, écoutez, on existe, vous devrez nous regarder, vous devrez nous écouter, c'est ça?
Puis on voulait que c'était un geste symbolique qui permet aux masses de comprendre qu'on a une victoire, on a fait tomber la clôture. Oui. Mais ça s'est passé très difficilement quand même, mais je pense que même si on n'a pas réussi à toucher à la clôture, il y a eu suffisamment d'efforts de fait qui ont permis de faire trembler le G20, je pense.
Écoutez, on va faire la publicité puis on revient. Donne-moi 2 secondes. Madame, donc en revenant avec Madame Monique Rochelot, vous avez dit que, voilà, en revenant à la manifestation, ok, vous êtes là,
oui.
Vous avez voulu symboliquement...
Nous sommes venus avec la claque, la convergence des luttes anticapitalistes qui a permis aux gens ordinaires de venir à Toronto. Le prix des autobus était 20$, mais c'était des autobus scolaires, des autobus jaunes. C'était rempli, les autobus. Il y avait 5 autobus qui ont parti de Concordia.
Ouais, mais ce qui est important pour nous ici, c'est que vous avez jugé important d'aller sur le lieu là-bas pour manifester. C'est ça?
Oui.
C'est un devoir pour vous, vous le voyez comment, vous?
Ah, pour moi, c'était bien important qu'il y ait quelqu'un qui le dise à Harper puis au chef les plus riches, là,
oui.
Que c'est vraiment, on n'est pas d'accord avec...
Nous sommes désaccord, hein?
Oui. Il y avait la question de s'opposer au financement des banques, puis aux coupures des programmes sociaux, puis aussi sa position sur la santé des femmes sans l'interruption de grossesse.
C'était vos revendications, j'imagine.
Oui. Okay. Mais c'était aussi l'exprimer. Pour nous, c'est encore plus important de l'exprimer parce que on le sait que beaucoup de monde ont ces revendications-là actuellement au pays.
Voilà.
Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on était installé dans le nord de l'université, Toronto.
Non, mais on parle de samedi d'abord. Samedi, la manifestation est finie comment?
Oui, la manifestation, ben, à Queen's Park, sous la pluie, à 12h30, en vue de la manif syndicale. On faisait notre manifestation avec la manif syndicale.
Oui.
C'était le groupe anticapitaliste. Puis, c'est qu'on a appris sur les lieux que deux de nos organisateurs de la CLAC sur trois avaient été arrêtés durant la nuit.
Okay.
Que le centre de téléphonique avec les avocats pour aider les manifestants avait été vidé par la police. Constatant que tout c'est aussi, en même temps que les communications cellulaires, walkie-talkie avaient été coupées.
Oui, c'est bizarre, ça.
Des rumeurs de loi martiale circulaient à travers nos rangs. En plus du règlement municipal permettant à la police d'arrêter toute personne qui s'approchait à l'intérieur de 5 mètres du périmètre de sécurité.
Mais vous avez quand même assisté, vous avez quand même approché, vous m'avez dit que symboliquement vous étiez allé
pour... Oui, on a marché avec les syndicats, mais on savait que les syndicats avaient l'intention de suivre le trajet, que la police avait décidé de nous faire, puis que c'était de retourner dans un autre parc. Nous, on voulait s'approcher. Alors, on s'est détaché de la manif quand ils ont retourné. On était à peu près 1000 anticapitalistes.
Oui, oui, OK.
Mais il s'est rajouté des syndiqués qui sont venus nous trouver plutôt que suivre l'autre manif. À peu près 2000.
Ça, c'est moins important, madame. Après ça, vous avez passé la journée de samedi. Vous êtes rentré maintenant à la salle de gymnase de l'Université de Toronto. Vous avez passé une nuit, si je ne me trompe pas. Et le lendemain matin, vous m'avez dit que vous étiez allé rendre à la toilette, j'imagine. Et
oui.
Puis, d'un seul coup, qu'est-ce qui est arrivé, madame?
Ça a cogné à la frappe de la porte de la toilette des femmes. Puis, oui. Un policier m'a dit en anglais, « Demande d'aller prendre mes bagages. »
De sortir. Vous êtes envoyé par les policiers dans le...
Puis là, on était les plus vieux. Ils nous avaient permis de coucher sur des fauteuils près de l'association étudiante. Mais les jeunes en haut, là, c'était sur le plancher du gymnase, dans des sacs de couchage.
Mais madame, il y avait une arrestation, ils vous ont arrêté. Est-ce qu'ils ont menotté, vous m'avez dit?
Non, ils nous ont dit là, qu'on était en état d'arrestation à cause qu'on avait participé à une émeute criminelle.
Voilà, c'est ça.
Puis, ils nous ont amenés en haut après, puis là, il y avait tout le tour de la salle des policiers avec des fusils à balles de caoutchouc.
Mais ils vous ont fouillé, j'imagine, ils vous ont trouvé dans votre sac?
Ils nous ont sorti un par un, puis ils nous ont fouillé à travers nos vêtements.
OK.
Puis ils nous ont mis des liens, les mains dans le dos.
Ils vous ont attaché avec des quoi? Des attaches en plastique?
C'était des courroies en plastique.
Oui. Les mains et les pieds?
Les mains, là,
Mains. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans votre sac, madame?
Ben, il y avait juste quelques chandails, des affaires. Mais ils ont ramassé toutes les tracts que j'avais dans mon sac. Je n'avais pas beaucoup, mais tout ce que j'avais ramassé à la manif la veille.
Après ça, ils vous ont pris, ils vous ont amené dans un fourgon, imagine, ou quoi?
Puis ils ont fait l'inventaire de nos affaires, puis ils ont séparé tout le matériel de manifestants. C'est-à-dire, j'avais un masque à gaz que j'avais utilisé quand ça a commencé. Les gaz lacrymogènes.
Vous l'avez pris pour quoi ce masque-là, madame?
Mais c'était pas à gaz, c'était un masque
de menuiserie.
Pour,
oui.
Et puis, ils m'ont pris un citron aussi.
Ah, un bout de jus de citron, là.
Un jus de citron qu'on met sur un pad à l'intérieur.
Vous êtes habitué dans des manifestations et tout, vous l'avez amené avec vous pour?
Pour me protéger si ça arrivait.
Okay.
Mais ils n'ont pas été forts, les gaz. Okay. On a juste senti un peu les gaz.
Ça, c'est du matériel criminalisé.
Mais moi, j'ai marché derrière ma bannière jusqu'à la fin, puis j'ai eu bien de la misère. J'ai tenu la bannière un bout de temps, puis je disais mes revendications, j'ai eu bien de la misère à suivre jusqu'à la fin.
C'est parfait. Madame, vous êtes rendue, maintenant, ils vous ont pris, ils vous ont mis dans un fourgon, vous m'avez dit, avec
oui,
des cages
j'ai
à l'intérieur.
Oui, j'ai commencé, là, après qu'ils m'ont eu attaché les mains, puis pris ma photo avec les policiers.
Avec les policiers, oui, c'est ce que vous m'avez dit, oui.
J'ai commencé à me sentir mal. Puis comme je parlais pas anglais, mais là, on nous a présenté des policiers de Montréal qui parlaient français.
Oui.
Mais j'ai commencé à me sentir mal, puis j'ai essayé de le dire en anglais, mais
ils comprenaient pas. Oui, vous êtes comment rendu
à... Ils m'ont mis dans le fourgon qui s'était galvanisé, une petite cage là, de deux pieds par trois pieds.
Oui.
Puis j'ai été malade.
Combien de temps vous êtes resté là-bas dans cette fourgonnette stationnée comme
quatre
ça?
4 heures.
Pendant 4 heures dans le fourgon, on n'a pas bougé, c'est ça?
Oui, j'étais vers 10 heures, puis on est arrivé à 2h30 au centre de détention.
Après ça, vous êtes rendu après 4 heures
de temps? Avec une grosse sirène en s'en allant, là.
Une fois arrivé au centre de détention, qu'est-ce qui est arrivé?
Ben, j'entendais un bruit de ferraille, mais c'était les prisonniers déjà arrivés qui brassaient les cages. Il y avait là, des cages comme à Guantanamo.
Oh my God. Et, une fois vous êtes sur le lieu, est-ce que vous ont fouillé? Vous m'avez dit aussi que c'était
bien arrivé. Sur le lieu, dans toute la période l'incarcération jusqu'à dans la nuit, lundi à mardi, on a eu droit à une fouille à nu.
À nu, c'est, ils vous ont déshabillé à nu, c'est ça?
Oui, oui.
À votre âge de 70 ans, ils ont réussi à vous mettre nu.
Ils n'ont pas fait de toucher rectal.
Mais ils vous ont demandé d'être debout, d'écarter vos jambes.
Oui, oui, se pencher en avant et en arrière pour voir jusqu'au fond.
Ah, mais ça c'est...
Puis là, il fallait enlever tous nos bijoux. Et là, il nous restait, ils nous avaient enlevé même les chaussures. Il me restait mes boucles d'oreilles. Il fallait que j'enlève des petites boucles d'oreilles.
Madame de Rochelot, j'imagine pas.
Les piercings des filles, là, il y en a bien, les jeunes qui ont des piercings. Ils essayaient de les enlever, puis ils se blessaient, parce que ça fait longtemps qu'ils étaient là, puis c'était dur à enlever.
Après ça, madame, ils vous ont remis les attaches dans les pieds et les mains, ils vous ont remis dans la cage aussi.
Oui, oui.
Oh my God. Et vous avez, à un moment donné, vous avez tombé malade, j'imagine.
J'avais été malade avant. J'étais très malade avant. Ouais. Puis, mais c'est que quand les filles brassaient la cage en criant médic.
Ouais, médicament, vous voulez dire. Oui.
En anglais.
Oui.
Puis, ils voulaient que je voie un médecin. Puis là, les policiers, ils m'ont fait venir près de la cage, près de la porte. Oui. Ils m'ont dit, ils m'ont demandé c'était quoi mes symptômes, mais c'était en anglais. Puis moi, je comprenais pas toujours, mais il fallait que les filles, ils me traduisaient.
Oui.
Puis j'ai dit que j'avais bien mal au cœur, mal au ventre, puis un besoin d'éliminer.
Aucune assistance médicale.
Mais ça me rendait bien malade
d'être
cet état-là.
Oui.
J'ai jamais vu ça. J'ai fait comme une infection d'intestin. C'est comme si je faisais une infection d'intestin.
Ouais.
Mais j'étais même pas capable de détacher ma culotte. Il y avait des toilettes chimiques dans chaque cellule, puis les femmes se mettaient devant nous parce que les policiers nous voyaient.
Ils vous regardent, même à la toilette, assis à la toilette.
Oui, oui.
Ouais. Mais madame, je veux savoir, après ça, je sais que c'est l'enfer, j'ai pas, si on peut rentrer dans les détails, c'est complètement l'enfer, mais une fois après ça, vers le soir, vers 11h le soir, vous êtes rendu au palais de la justice, c'est ça?
Dans la nuit de lundi à mardi, ils nous ont amenés, il faisait encore jour, quand ils nous ont amenés dans un fourgon avec les pieds enchaînés, des belles chaînes en or.
Oh,
la policière, elle se promenait dans le passage,
vous, madame,
en brossant les chaînes.
À 70 ans, ils vous ont mis des chaînes aux pieds et aux mains.
Aux mains puis aux pieds.
Ah, ok, voilà. Et avec ça, vous êtes rendu à la cour.
Au tribunal. Oui.
C'est vers quelle heure?
Mais on n'avait pas eu droit à un avocat. On ne pouvait pas faire d'appel pour notre famille ou pour. Moi, j'ai parlé à un groupe de défense qui parlait français.
Oui.
Puis là, ils m'ont bien rassuré. Ils ont pris le numéro de téléphone de ma fille, puis ils ont appelé ma fille.
Oui.
C'est l'avocate qui a appelé ma fille. Ils m'ont trouvé, il disait, un avocate qui parlait français.
J'ai juste oublié une chose, là. Quand vous ont déshabillé, madame, vous m'avez dit que les policiers, ils tremblaient, les mains. Il y avait des mecs tremblaient,
oui.
Là. Ils avaient honte.
Les policiers, ils n'étaient pas assurés dans
pas
la job.
Avec, hein.
Puis ils tremblaient pour ouvrir les menottes, pouvoir, puis fermer les menottes, ouvrir les cases. Pour nous charger.
Et vous on revient un petit peu à la fin. Je sais que c'est long. C'est le temps qui nous perturbe. Je veux savoir, une fois à la cour, qu'est-ce que le juge vous a condamné de quoi, madame? Vous étiez condamné, accusé de quoi?
J'ai été accusé de conspiration pour commettre une infraction criminelle.
My God.
Puis j'ai des conditions très sévères. Il fallait quitter dans les heures suivantes Toronto. On est interdit d'aller en Ontario.
Vous êtes dangereux, c'est ça?
Oui.
C'est que... Un vrai touriste, j'imagine.
Pas le droit de manifester. Une caution de 1 000 $ si, jusqu'au 5, jusqu'à aujourd'hui, si j'avais été dans une manif, pouvait m'arrêter ici à Montréal, me mettre en prison, puis demander 1 000 $. Le 1 000 $, ils l'ont laissé tomber pour moi, pour nous libérer dans un premier temps, là. Mais on est obligé d'aller le 23 août en cours.
Je veux savoir, madame, vous qui 70 ans, quel est le message que vous allez passer aujourd'hui à la génération, à tout le monde?
Moi, je pense qu'il faut vaincre le mensonge partout dans le monde. Il faut à tout prix exprimer toute cette misère, cette oppression que le capitalisme nous crée.
Oui, vous pensez que le pouvoir est devenu... Il y a une sorte de folie ou...
C'est vraiment qui rend les gens malades, fous. On devient fou. Les femmes ont pété. Moi, j'ai réussi à garder mon calme jusqu'à la fin. Mais quand j'ai sorti, je pleurais puis je tremblais.
Effondré complètement, je m'imagine.
C'était énorme.
Écoutez, on va faire une pause musicale et on revient avec Madame Dupont, Liliane Dupont, et on va continuer notre témoignage. Chère auditrice, cher auditeur, si vous n'avez jamais vécu une arrestation arbitraire ou brutale de la part des forces de l'ordre, moi, personnellement, je ne vous la souhaiterais pas. Je l'ai vécu et je n'arrive pas à me remettre depuis des années. Donc il arrive souvent que la réalité dépasse les images et la description. Les mots restent toujours limités, incapables de tout décrire. Voilà pourquoi la victime cherche toujours d'autres voies pour mieux s'exprimer. La semaine passée, j'ai rencontré une femme québécoise âgée de 70 ans, une femme qui m'a émerveillé. Et le peu que je peux dire de cette dame est qu'elle est une femme exemplaire pour toutes les générations québécoises présentes et à venir. Par son courage, sa détermination, ses idées, sa valeur, son endurance, son combat et sa lutte pour la justice sociale, elle est la personne idéale à suivre comme exemple. Militante depuis 30 ans pour les libertés humaines, elle se prépare avec son groupe approximativement du même âge pour participer à la manifestation concernant la tenue du sommet des G20. Déterminée que sa participation est un devoir ultime, sans appel, comme tous les manifestants, elle est partie exprimer son désaccord aux mesures antidémocrates, de la pression de l'État, aux attaques contre les droits et à l'écartement du peuple dans les prises de décision. Pour cette dame, écarter le peuple de la prise de décision est un crime sans précédent qui n'amènera que l'anarchie. À son âge, le pouvoir lui fait peur de plus en plus. Pour elle, c'est le peuple qui devra fabriquer ou construire son leader. Elle est venue, donc, ou bien elle est venue se réveiller dans le gymnase de l'Université de Toronto quand les policiers ont procédé à son arrestation. Madame Rochelot, si nous retournons un peu en arrière avec vous, avec votre groupe, vous êtes arrivée à Toronto à 3h du matin et vous avez passé la nuit chez des militants qui habitent à Toronto. Le samedi à 12h30, vous êtes rendu sur le lieu de la manif. À 14h, le déclenchement de la manifestation. Selon vous, les manifestants étaient partagés entre syndicalistes et anticapitalistes et d'autres. Et sur le lieu, c'était quoi votre objectif? Pouvez-vous me dire en quelques mots?
Nos revendications, c'était de s'opposer au financement des banques puis aux coupures dans les programmes sociaux dont les 20 pays discutaient à l'intérieur du G20. Notre intention était de se faire entendre par le G20, si possible, dans un geste symbolique de faire tomber la clôture.
Ah, vous êtes allé vraiment approcher pour tomber la, symboliquement, c'est ça?
Oui.
Pour vous dire, écoutez, on existe, vous devrez nous regarder, vous puis, devrez nous écouter, c'est ça?
Puis on voulait que c'est un geste symbolique qui permet de, à, aux masses de comprendre qu'on a eu une victoire, on a fait tomber la clôture.
Oui.
Mais ça s'est passé très difficilement quand même, mais je pense que même si on n'a pas réussi à toucher à la clôture, il y a eu suffisamment d'efforts de fait qui ont permis de faire trembler le G20, je pense.
Écoutez, on va faire la publicité, puis on revient. Donne-moi 2 secondes. Auditrices, chers auditeurs, vous allez finir de devenir comme moi. Après chaque témoignage livré sur ce plateau ou ailleurs, je me sens bouleversé par cette nouvelle réalité amère qui nous frappe, qui s'exerce en toute liberté malgré les nombreuses protestations des citoyens. L'homme est persécuté, humilié, non considéré, sans valeur aucune, dans une voie incertaine. Il cherche désespérément une justice inaccessible à tout le monde. Devant moi aujourd'hui, j'ai un homme qui a passé 35 ans à conduire des autobus scolaires, ici au Québec. Il a passé toute sa vie au service des écoliers québécois. 35 ans, du matin au soir, à s'assurer que ses enfants se rendent à l'école pour apprendre. Félicité à plusieurs reprises par les parents des élèves pour son dévouement, et voilà qu'un jour, les patrons de cette compagnie décident de se débarrasser de lui, pour des raisons qu'on va connaître dans quelques instants. Vous allez voir que notre invité est syndiqué, et pourtant. Mais ce qui me vient en tête, c'est tous ces travailleurs qui ne sont pas syndiqués et qui subissent de l'harcèlement psychologique à la longueur de l'année sans pouvoir dire un mot. Sinon, ils se voient être congédiés sans raison valable. Les normes de travail au Québec, croyez-moi, ils ne peuvent rien faire. Monsieur Deschamps, vous travaillez pour la compagnie Transco First Student Canada, une compagnie de transport scolaire dans la ville de Montréal et ses environs. C'est une compagnie qui existe depuis combien d'années?
Disons qu'elle existe depuis quelques années parce qu'il y a eu des, comme, à un moment donné, il y a eu des compagnies qui agitent une autre compagnie et puis c'est devenu First Student.
Mais c'est toujours la même compagnie qui...
Oui, ça reste toujours la même compagnie, puis les mêmes administrateurs, puis les mêmes choses.
Oui, mais vous avez commencé à l'âge de 19 ans, vous m'avez dit, j'imagine.
Oui, j'ai commencé à l'âge, c'est-à-dire que j'ai commencé à l'âge de 21 ans okay. dans le transport scolaire.
OK. Non, oui. Et ça a été bien depuis des années, 20, 30 ans, jusqu'à...
Jusqu'à cette année-là, c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes.
Un problème, oui. Et pourtant, vous êtes syndiqué ou je me trompe?
On est supposé, en tout cas.
Okay, oui. je veux savoir, quand cette compagnie a démarré, j'imagine c'est grâce à vous, à votre participation, j'imagine?
Bien, moi, quand j'ai débuté dans le transport scolaire, c'est sûr que le transport scolaire, parce que moi, écoutez, ça fait au nombre d'années que je suis là, le transport scolaire n'a pas toujours été qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai participé à une certaine construction.
Voilà.
On appelle ça une certaine construction.
Ouais.
Il y a eu une construction de ça.
Ouais.
Puis il y a des gens qui m'ont connu, qui sont décédés aujourd'hui, malheureusement, là, qui sont décédés. Mais ces gens-là, ils se plaignaient pas de moi. Mais là, depuis cette année, là, les nouvelles personnes là, qui prennent la relève...
Ouais.
Qui me disent que je suis anti-modernisme en passant. Là, j'y envoie le message, j'espère qu'ils me comprennent. Moi, je suis pas anti-modernisme. Je suis pour l'amélioration, mais seulement, il faut que quand même qu'il y ait des... Il y a des limites à faire des choses. Comme là, il congédie pour n'importe quoi. Comme moi, dans mon cas, là, c'est toute de l'invention. C'est de la pure invention aussi.
Oui, mais c'est des chances que je comprends aussi que cette compagnie-là, Transco, vous reproche, entre autres, d'avoir utilisé un langage inapproprié, avec les élèves et que vos paroles et vos gestes, votre comportement et attitude sèment l'inquiétude auprès des élèves. Ils vous reprochent aussi de ne pas respecter les règles du travail, comme quoi vous avez un comportement colérique, manque de jugement. Ils vous reprochent aussi que les commissions scolaires se plaint de vous. Est-ce que c'est vrai tout ça?
Non, ils n'ont pas raison de se plaindre de moi parce que, écoutez, moi, ce que je comprends pas, si j'étais si colérique que ça, d'après les commissions scolaires, là, si j'étais si colérique que ça, je suis pas mal certain que ça fait longtemps que je serais plus dans le domaine.
Exactement, c'est-à-dire quand même, depuis 34 ans, j'imagine, 33 ans, ils n'ont jamais, il n'y a aucun reproche.
Il n'y avait aucun reproche.
Et ça a commencé comment ces reproches-là?
Ça a commencé cette année, puis là, c'est que la compagnie aussi veut, comme ils parlent de modernisme, là, ils essaient de changer des choses.
Oui. Mais est-ce que vous coûtez cher pour la compagnie, c'est ça
qui est? Pour eux, oui. Puis là, moi, je pense que le gros du problème, c'est ça, pour eux, pas pour moi, parce que je trouve ça normal. Des employés, ça se fait. Excusez-moi, là, mon côté syndicaliste sort. Des employés, ça se paye.
Oui, tout à fait, oui.
Puis que quand même que tu fais 14 % de paye de vacances après 30 ans de service, c'est pas si cher que ça.
Tout à fait. Mais ce que je veux savoir, j'aimerais bien que vous me parliez de l'harcèlement. Ça veut dire que quel genre d'harcèlement? Une fois vous rentrez, vous ne trouvez pas votre autobus à sa place, les freins qui ne sont pas réparés. Qui fait ça, vous pensez?
Donner des problèmes parce que le matin quand je rentrais dans la cour, je place le véhicule à une certaine place.
Oui.
Moi, je m'attends à trouver mon véhicule à la même place, mais là, s'il a été déplacé, puis on fait pas des miracles non plus, là. Je suis pas le frère André. Comme on dit, je suis M. B. Deschamps, puis je fais ce que je peux, au possible.
Oui. Mais M. Deschamps, il vous reproche aussi comme quoi ils vous ont donné un nouveau parcours et que vous êtes toujours en retard de 20 minutes. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi, c'est-à-dire là, je comprends que l'harcèlement, c'est une fois il y a le frein qui fonctionne pas, donc vous demandez de le réparer, il n'est pas réparé.
Oui,
une fois vous arrivez à chercher votre autobus, il n'est pas à sa place, donc vous êtes en retard aussi. Chaque fois, il vous pousse quelque chose, il vous met un bâton dans le roue.
Mais écoutez, c'est toutes des histoires à dormir debout. Excusez-moi.
Oui, oui.
Là.
Oui, oui.
C'est comique que moi, là, il y a quelques années, c'est comique, j'ai jamais eu de problème de retard sur mes routes. Puis tout d'un coup, soudainement, hop, je me ramasse avec des problèmes sur mes routes. Ça, là, c'est de la science, comme on dit, pour moi, c'est de la science-fiction.
Je comprends, oui. Mais moi, ce que je comprends pas, est tout à fait normal. Si, par exemple, ils vous ont donné un nouveau circuit, si vous êtes là en retard de 3-4 minutes, c'est-à-dire le trafic et tout,
ça peut être normal aussi, parce que la première journée que vous tombez sur un circuit, je vais vous expliquer une chose, vous connaissez pas les enfants, vous n'avez pas eu le temps de... ils sont pas toujours pratiqués d'avance. Moi, des fois, ils me donnaient des circuits pour faire comme dépannage.
Oui. Oui, mais c'est ça, je comprends. M. Deschamps, mais vous pensez que ils ont gonflé ces durées et tout pour vous nuire, c'est ça? Hein?
Ils ont gonflé pour me nuire. Oui. Parce que moi, écoutez bien, j'ai été président du syndicat moi-même.
Oui, c'est étrange, hein?
C'est étrange, fait que je pense que l'action qu'ils prennent, là, c'est tout relié à ça, mais ils sont pas assez francs pour me parler dans le visage.
Oui.
C'est-à-dire, ils m'ont parlé dans le visage, oui, de certaines choses. Quand ils me traitaient d'antimodernisme l'autre jour, ça lui faisait plaisir de me le dire. Mais seulement, c'est pas... je suis pas antimoderniste. Je suis pas contre l'amélioration. Je suis absolument d'accord avec l'amélioration. Parce que si j'avais été contre, ça fait longtemps que j'aurais dit, je vais lâcher la job.
Une expérience de 35 ans, là, vous savez, là.
Ça fait longtemps que j'aurais lâché la job. Parce que quand j'ai débuté dans le transport scolaire, c'était pas comme ça, là.
Mais qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les procédures que vous avez suivies vis-à-vis? Avez-vous été aux normes de travail au Québec ici?
Oui, j'ai été aux normes du travail, mais moi, je suis syndiqué. Fait qu'on m'a dit qu'il fallait que je passe par mon syndicat.
Mais c'est la charte fédérale, vous m'avez parlé de la charte fédérale.
Oui, il y a une charte, parce que la compagnie possède une charte fédérale.
Oui. Une charte fédérale, ça veut dire que le Québec, il ne peut pas exercer
aucune force.
Oui,
ce qu'ils disent.
Oui.
Mais d'après, moi, je sais que j'ai des amis qui m'ont dit, j'ai un ami qui m'a dit qu'il y a possibilité que les normes du travail pourraient le faire.
Ils peuvent agir dans ce sens-là.
Ils pourraient agir dans ce
sens-là. Vous êtes un employé qui travaille au Québec. Vous êtes un employé qui travaille au Québec et c'est étrange, vous travaillez au Québec et et comment l'énorme travail peuvent pas au moins essayer de réouvrir ce dossier-là et voir qu'est-ce qui se passe.
C'est-tu parce que je suis québécois?
c'est étrange. Hein? C'est... Mais qu'est-ce que vous, je sais que vous êtes sans salaire depuis une année.
Depuis le mois de janvier.
Et vous n'avez rien reçu jusqu'à présent.
Depuis le mois de janvier, je suis sans salaire, c'est-à-dire que moi, présentement, je donne ma... Puis je le dis publiquement parce que moi, je suis pas le gars pour abuser de ma conjointe, de mes conjoints, en tout cas, whatever. Moi, c'est une conjointe que j'ai depuis 20 ans passés. Puis c'est grâce à elle là, que je m'en sors. C'est grâce à elle que je m'en sors, là.
Mais
seulement, je veux pas abuser d'elle non plus. Parce qu'elle aussi, écoutez, je la comprends. Elle est pas choquée, là. Elle m'a pas fait de crise, là. Elle m'a pas fait de...
Mais quand même, 35 ans avec un salaire et vous vous trouvez à la fin de votre vie, si vous voulez, sans salaire pendant une année et il vous laisse comme ça. Ben, écoutez, là, je sais vraiment
c'est, pas... Et puis, il y a le chômage aussi, là. Parce que qu'est-ce qu'ils ont été dire au chômage? Ils ont été dire des choses au chômage.
Le chômage, ils ont refusé aussi d'avoir le chômage.
Oui, parce que j'ai été congédié pour mauvaise conduite. J'ai été congédié pour mauvaise conduite.
Ça veut dire que vous êtes en train de me dire, si j'ai bien compris.
En train de me salir.
Vous êtes en train de me dire comme quoi, si quelqu'un dans le syndicat ou dans la compagnie, il décide que de vous mettre dehors, ben, il a toutes les possibilités, tous les moyens de le faire.
C'est en plein ça.
Voilà.
Écoutez, ça, et puis ça, je n'aime pas faire la politique, mais ça date depuis le temps de M. Jean Charest.
Voilà. Écoutez, ça, c'était Transco First Student Canada. C'est tout ce que je peux vous dire, Monsieur Deschamps. Je vous remercie d'avoir venu ici pour au moins partager avec tout le monde et de passer ce message-là, livrer ce message qui est douloureux. Et j'espère, on va essayer de suivre.
Moi, j'espère une chose que je vais avoir aussi qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont travaillé avec moi, puis qui m'entendent. Parce qu'il y a possibilité qu'ils m'entendent aussi, là. Et puis qu'ils vont comprendre que c'est toute l'injustice, qu'est-ce qui se passe
c'est
présentement.
C'est vraiment illégal et injustice.
C'est vraiment illégal.
Merci. On va passer une pause et on revient avec notre deux invités. Merci bien. Oui, donc, vous avez entendu le message ou bien le témoignage de Monique.
Rochelot,
excuse-moi. Et moi personnellement, j'accepterai pas que ma mère ou ma grand-mère sera humiliée à ce point-là. Écoutez, Madame Liliane Dupont, vous êtes une militante dans le comité bail logement social, mm-hmm. Et vous militez quand même depuis 13 ans. Et vous êtes allée à Toronto pour participer à cette manifestation. Pouvez-vous, qu'est-ce que vous allez nous dire? Vous avez entendu, vous avez écouté Monique, témoignage de Monique. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça?
Ben, je peux que confirmer. Excusez ma voix, parce que depuis, ces 35 heures-là...
Vous avez passé 35 heures?
Entre 30 et 35 heures.
Dans
le froid.
Sans détention, oui.
Dans le froid. Puis on a crié pour obtenir des soins médicaux, nos médicaments.
C'est ça la voix qui...
Oui, je peux que confirmer ce que Monique a raconté.
Vous avez vécu la même situation,
oui.
J'imagine.
Oui. Privatisation de nourriture adéquate, privation d'eau, de sommeil, sous les néons entre 30 et 35 heures. Puis j'ai entendu dire qu'il y a eu des incarcérations de 72 heures.
Oui.
Et les fouilles à nu, là, dont Monique parlait tout à l'heure, là, moi, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, hein, c'est relatif.
Par rapport à Monique, je pense...
Mais j'ai entendu des partages de jeunes dames, là, de jeunes femmes là, qui elles avaient eu des attouchements rectales prétextants ou vaginales prétextants qui pouvaient cacher quelque
chercher
chose.
Chercher un objet.
Tu sais, là, moi, ce que j'ai le goût de dire là-dessus, c'est que c'est complètement irréaliste.
Exactement.
Quand j'ai été arrêtée, là, moi, j'étais sûre que c'était une inspection de routine, mettons.
Voilà,
tu sais, une petite interrogation ou... Mais j'aurais jamais cru que j'aurais été...
Ça peut aller à ce point-là.
Oui, c'est surprenant, tu sais.
C'est
puis...
une descente à l'enfer, là.
Ouais, ouais.
Et pourtant, vous êtes parti quand même pacifique. Vous n'avez pas d'armes sur vous. Vous n'avez pas l'idée du tout de détruire quoi que ce soit.
Ben non.
L'esprit pacifique comme ça. Et puis vous avez eu cette expérience.
Oui, oui. Puis, ben c'est ça. Moi, je suis allée justement, pour dire avec, tu sais, le néolibéralisme, on se rend compte que les programmes sociaux, le soutien, puis, tu sais, la société est en train de... Je trouve que c'est difficile pour moi que de les voir se justifier dans leur tour d'ivoire, si vous voulez. L'écart entre les riches et les pauvres, ils veulent se protéger des acquis, nous faire perdre ce qu'on avait socialement. Ils veulent-tu nous faire retourner à l'époque victorienne, là, où que la personne pauvre avait aucun droit, tu sais.
Je comprends, vous étiez quand même là-bas pour dire, écoutez, là, nous sommes là, là, nous sommes des citoyens, nous sommes le peuple, nous sommes là.
Voilà.
Nous aimerions bien que...
Cachez-vous pas derrière vos tours d'ivoire, là, on est concerné.
Voilà, tout à fait. Mais cette expérience qui est douloureuse aussi, vous l'avez vécue, vous l'avez sentie.
Ouais.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, quel sentiment vous gardez aujourd'hui après toute une expérience semblable?
Ouais, ben, comme je vous l'avais mentionné plus tôt, là, en tout cas, oui. Antérieurement. Oui. Écoute, moi, là, sincèrement, là, je suis allée marcher.
Oui.
J'avais pas d'armes. Écoute, j'ai rien à me reprocher. J'ai absolument rien à me reprocher. Puis aujourd'hui, j'ai des charges.
C'est ça, les charges, oui. Vous avez des charges. C'était que c'est la même chose que Monique.
Oui. Mais ben, je pense, moi, c'est attroupement illégal. Tu sais, en tout cas, c'est à peu près n'importe quoi, là, oui. Tu sais. Puis...
Je
comprends pas, ça dépasse ma compréhension, mon entendement,
ouais.
Que, écoute, je suis allée marcher, j'ai été incarcérée et c'est injustifié dans mon esprit parce que j'ai rien à me reprocher. Ouais. C'est ce que j'ai le goût de dire, tu sais. Je suis allée marcher, tu sais.
Oui, je comprends. Je suis
allée marcher.
Mais
donc, oui, vas-y,
tout de suite après la manif, Liliane et moi, on s'est promenés parce que j'avais laissé mon sac à lunch près du parc, dans un commerce au départ. Alors, on voulait retrouver mon sac à lunch, mais on a rencontré des militants du comité bail qui nous ont dit « Allez pas par là, la police arrête le monde ». Il y avait un attroupement dans le parc. Après, j'ai su que c'était un rassemblement de prières. Mais il y avait les chevaux, il y avait... Et puis, ils tiraient des balles de caoutchouc, puis la foule courait, puis elle se sauvait, puis nous, on est rentré dans les toilettes chimiques.
Mais à votre âge, madame, vous avez couru,
Je l'ai pogné par la main, j'ai dit, viens pas, Monique.
Ah, vous étiez à côté, Solidaire.
On était ensemble.
Mais c'était avant, c'est le lendemain qu'on est venu nous arrêter au gymnase.
Oui, Lydia, j'aimerais bien vous dire deux mots pour la solidarité. Vous sentiez quand même, c'est solidaire aussi dans cette...
Ben, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'entraide, tu sais, dans les moments difficiles. Là, c'est ça que j'ai trouvé ça merveilleux,
c'est ça,
les femmes avec lesquelles j'étais là.
Merci Liliane. Je vais passer maintenant avec Monsieur Roland Cazès pour nous dire qu'est-ce que vous pensez, Roland, de tout ce que vous avez entendu.
Oui, bonjour messieurs et mesdames. Je finis par voir quelque chose qui n'est pas normal dans notre pays. Ça ressemble plus du tout à notre pays. Je m'excuse. Là. On s'en vient avec un état policier et puis je ne suis pas le seul à le dire.
Absolument.
Monsieur Julius Gray. Hier, l'a dit à la télévision, nous dirigeons vers un État policier. Un État policier, c'est grave. Maintenant, côté monsieur Deschamps pour scolaires...
Oui, celui qui a travaillé 35
ans... Je trouve ça lamentable. Lui donner une montre en or ou une médaille d'or pour avoir fait 35 ans de patience avec des enfants qui sont plus ou moins turbulents. Parce que vous savez qu'ils sont énergiques, nos enfants. Ils sont pas malades, ils sont en santé. Eh bien, je trouve qu'on devrait lui donner plutôt une médaille d'or ou une montre en or plutôt que de le congédier comme ça. C'est un manque de respect.
Non, pas congédié encore. Ils l'ont suspendu pendant une année sans aucun suivi. Hein.
C'est
il
ça.
Est là, son salaire, son rien du tout.
Il vit de l'air du temps.
Voilà.
Hein? En plus de ça, on lui fait un mauvais nom au chômage. De quel droit ces gens se permettent de faire un mauvais nom au chômage comme ça pour une personne qui a travaillé pendant 35 ans? Où est le respect humain? Il n'y a plus de respect humain.
Même
j'entends
si
ces dames, j'entends M. Deschamps et je me demande où est le respect humain.
Pour le cas de M. Deschamps, même si quelqu'un y a fait une gaffe, soi-disant même ça, 35 ans de travail quand même ça...
Sans accident.
Sans accident, sans aucun accident. accident de...
Et ça, là, route, oui. Mes félicitations, M. Deschamps, parce que 35 ans sans accident dans nos circulations, avec des enfants turbulents des fois dans l'autobus, oui. Malgré l'autorité qu'ils représentent, je trouve qu'on se fout de la tête du monde. Définitivement, il y a des compagnies qui mériteraient là, de prendre leur clic et leur claque et les envoyer en Ontario. Ils seraient bien en Ontario. Bon, pour parler de ces dames qui ont été vraiment maltraitées à Toronto, je trouve ça lamentable. Mais vous savez que le G8 et le G20, je vous comprends lorsque vous manifestez. Regardez, en France, le service de santé était un des meilleurs. Et je vous le jure, je l'ai même essayé très peu parce que je suis un gars en santé, mais le système était parfait, ça allait très bien. Figurez-vous que depuis qu'il y a le G8 et le G20, on leur a dit « Ah, mais messieurs, il ne faut pas faire ça. Il faut faire payer les cochons de payeurs et ne pas leur donner le service. » C'est ça qu'on a ici au Québec en ce moment, dans les hôpitaux. On passe un temps infini, on n'a pas de service, on n'a pas de médecin, on n'a pas ci, on n'a pas ça, et on paye pareil. Et en plus de ça, on va nous faire payer encore plus cher maintenant. Et vous savez, c'est depuis qu'il y a le G8 et le G20. Je comprends que vous manifestiez comme ça, parce que je suis au courant de ça, mais... Il y a d'autres choses que je ne suis pas au courant, que tout le monde apprend du jour au lendemain. Ces gens-là vont venir tout à l'heure avec un système mondial et ils vont nous contrôler à un point. On retourne à l'ère victorienne. On va redevenir des esclaves bientôt. Et ça, il ne faut pas se laisser faire. Et moi, j'invite la police à respecter les manifestants.
Ben, c'est pas juste
la police. Ils ne seront pas policiers, eux aussi.
Oui, mais Roland, la police a reçu des ordres aussi. Hein. Vous avez dans le cas de Madame.
Je m'excuse. J'ai reçu des ordres aussi. J'ai été soldat. J'ai reçu des ordres et des choses que je n'ai pas fait parce que c'était inhumain. Et il faut respecter l'humanité.
Mais elle a dit même elle, vous savez, en train de déshabiller, donc elle se sentait mal à l'aise.
Je comprends, c'est un attentat à la pudeur quasiment.
Et les policiers se sentaient vraiment malades. Hein, donc,
c'est affreux. Ouais. Dans quel monde vivons-nous là? C'est lamentable.
Oui.
Et maintenant, vous, M. Zitouni, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, ou Bernard, qui est ici, qui a quand même un 55 ans.
Avez-vous quelque chose à ajouter, M. Bernard?
Moi, je trouve que des fois, il y a des situations qui sont vraiment...
Il y a des situations qui sont très précaires, parce que comme j'écoutais la situation à madame, là, je trouve ça aberrant, faire déshabiller une personne...
On a le droit de manifester. On se plaint que les jeunes ne manifestent pas, qu'on nous en passe de toutes les couleurs. On a le droit de manifester, mais naturellement, manifester d'une façon raisonnable et humaine. Et,
c'est ce qui était pacifique, là.
Pacifique, c'est ça.
Oui, mais là, si on commence à traiter les gens comme des animaux, là, ça va mal. Ça va mal aller aux prochaines manifestations. Attention, monsieur les agents du PVM.
Mais il n'y avait pas ben choix, la police, d'arrêter beaucoup de monde pour faire le screening après ceux qui avaient fait briser les vitres.
Il y a toujours des troublemakers, comme on dit. Il y a des briseurs toujours qui s'introduisent. C'est l'image de notre société. Une manifestation, c'est l'image de la société.
Voilà. Mais là, donc... maintenant, s'ils nous ciblent comme étant des briseurs de vitres, là, ça finit plus. Ils peuvent nous cibler.
Oui, mais écoutez, là, merci pour nos invités d'aujourd'hui. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. On vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. N'oubliez pas de communiquer avec nous 514-273-4302, je répète, 514-273-4302, ou bien vous pouvez nous écrire info@commercialmage-québec.com, info@commercialmage-québec.com, et à la prochaine.